France Culture. Bonjour à tous, bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Avril Ventura en assure la programmation, Perret Legras la réalisation et Anthony Thomasson est à la technique de ce direct. Aujourd'hui, nous parlons de la grande solitude des adolescents et des liens qu'on peut nouer pour y répondre. Une actualité en chasse-t-elle une autre ? Aujourd'hui, lundi 16 juin, le bac et ses 720 806 candidats en tout font la une. Mardi dernier, Mélanie, une assistante d'éducation au collège Françoise Dolto, était assassinée par un élève de 4e. Jeudi, une minute de silence était organisée dans les établissements scolaires. Je ne suis pas sûre que tout le monde se rappelle qu'il y a quelques semaines, en avril, une lycéenne avait été tuée par un élève de son établissement à Nantes. Elias, 14 ans, et Abbas, 16 ans, ont eux aussi été assassinés cette année. C'était à Paris et c'était également avec des couteaux. Cette violente, sidérante, est abondamment analysée, y compris dans Être et Savoir, évidemment, on en a parlé dans l'émission. Et ce dont je voudrais discuter ce soir avec mes invités, c'est du monde dans lequel elle prend place, cette violence, de la manière dont vibrent ces événements immensément tragiques à l'école et dans le présent des adolescents et bien sûr de nous, adultes et éducateurs. En y réfléchissant depuis plusieurs jours, en écoutant les analyses, en échangeant avec des acteurs et observateurs de l'école, éclate la question d'un certain manque d'empathie, alors pas de tout le monde, mais de certains jeunes, du regard sur l'autre qui a peut-être changé dans l'école d'aujourd'hui, d'un manque de lien social, d'une école qui ne créerait plus de lien social. En fait, on parle d'une solitude immense et banale de nos enfants, une solitude qui dépasse même le sujet de la santé mentale dont on parle, et heureusement qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors finalement, tout ce qu'on peut faire dans une émission de radio, c'est parler, enfin c'est surtout s'écouter. Écouter ce qu'on dit des adolescents, écouter les adolescents, écouter celles et ceux qui s'occupent d'elles et d'eux pour mieux comprendre ce qui nous arrive à tous, pour mieux comprendre les problèmes des enfants et des jeunes qui sont aussi nos problèmes. Bonjour Loudia Brice.
Bonjour Louise.
Vous êtes coordinatrice jeunesse référente réussite éducative au centre social La Maison pour tous du Val d'Argent. Quel beau nom. C'est à Argenteuil. Avec nous également Laurence Touroude. Vous avez été maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rouen. Enfin, voilà, pendant assez longtemps. Vous venez juste d'être à la retraite. Vous connaissez hyper bien le sujet des assistants d'éducation puisque vous les formez. Et puis, vous avez écrit sur ce sujet. Vous me dites bonjour.
Bonjour.
Je voulais entendre le son de votre voix. Avec nous aussi Sophie Vénétité.
Bonjour.
Professeure de SES, donc sciences économiques et sociales. À mon avis, ce sujet intéresse aussi les sciences sociales. Secrétaire générale, on le sait peut-être aussi quand on écoute Être et Savoir et quand on regarde un petit peu la télévision, quand on écoute la radio. Secrétaire générale donc du SNES. FSU, qui syndique aussi eh bien, des assistants d'éducation et des CPE. Ce sont des personnels très, très importants dont on va évidemment parler ce soir. Donc, comme je le disais dans l'introduction, je m'interroge beaucoup à chaque fois qu'un événement très violent intervient dans le monde scolaire. C'est un peu plus qu'un sujet d'actualité pour Être et Savoir. C'est vraiment une interpellation et une émotion. Voilà, qui me saisit, et je pense qu'on est très nombreux et nombreux dans ce cas. Et j'ai appelé Marie-Rose Moreau, qui est pédopsychiatre, qui a beaucoup œuvré pour la cause des adolescents. Elle écrit sur le sujet, par exemple, elle a publié « Pour le bien-être et la santé des jeunes » avec Jean-Louis Brisson, c'était chez Odile Jacob. Elle intervient aussi beaucoup dans les médias. C'est la chef de service très connue de la Maison de Solène, qui est une maison qui accueille des adolescents. Donc je suis allée la voir ce matin. Je crois que j'avais très envie qu'on l'entende ce soir. J'avais envie aussi, moi, de discuter avec cette observatrice des ados et de la famille. J'ai commencé par lui demander ce qu'elle pensait des annonces toutes récentes d'Elisabeth Borne, donc la ministre de l'Éducation, sur le protocole de détection de la souffrance psychologique dans les établissements scolaires.
tout adolescent peut traverser un moment difficile, peut traverser un moment d'inquiétude. Et on sait que, d'ailleurs, devant ces fragilités, certains vont réagir en se faisant du mal à eux-mêmes, d'autres vont réagir en faisant du mal aux autres. Mais au fond, il y a la même question, c'est que c'est un adolescent qui n'est pas bien à sa place, qui se sent isolé. Ça, c'est la chose la plus grave et la plus importante qui arrive à nos adolescents aujourd'hui et qui rend compte, à mon sens, de ce manque de lien, ce manque de relation avec les autres, ce manque de place, qui rend compte de l'importance des questions et de la souffrance de nos adolescents. Donc, on doit construire, on doit aider ces adolescents tous à être en relation, à se sentir membre d'une communauté, ici la communauté scolaire, mais aussi autour de l'école et dans la famille. Ça se rejoue à tous les niveaux. Ça, c'est un point important et c'est là, je pense, où on doit pouvoir faire des progrès. Et tous les plans, d'ailleurs, ces dernières années qui se sont succédés, proposaient qu'on aide ces adolescents à être inscrits, en particulier à l'école, et proposaient aussi qu'on les prenne en charge très rapidement lorsqu'ils expriment ou ils montrent une souffrance. Ça, c'est tout à fait possible et je pense que c'est le principe de toutes les sociétés qui sont confrontées à ces questions. On prend souvent l'exemple d'Europe du Nord, mais on pourrait prendre aussi au Canada l'importance des plans autour de ces questions. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse faire un repérage ultra précoce de je ne sais pas quoi. D'une fragilité, tous les adolescents peuvent être fragiles. D'une pathologie, il n'y a aucun élément qui permette de faire un diagnostic avant même que la question se pose. Donc, il s'agit non pas de repérage au sens vrai du terme, mais d'action la plus sensible et la plus bienveillante possible face à l'expression de cette souffrance.
On se tromperait en pensant qu'on peut prévenir précisément des passages à l'acte.
C'est une vieille question et la réponse a déjà été non. On ne peut pas prévenir, sauf par des actions de société. C'est-à-dire par des actions qui permettent que l'adolescent soit mieux dans l'école, mieux dans sa vie, mieux dans son avenir. Mais sinon, non. La prévention au sens de « je vais surveiller les adolescents et puis devant tel signe, je vais agir », non. La surveillance ou la détection ultra précoce, ça n'existe pas. En revanche, l'intervention précoce, ça existe et c'est très utile parce que qu'est-ce qui se passe en plus aujourd'hui qui est vraiment quelque chose que nous, les pédopsychiatres, on dénonce avec vigueur, c'est que on a été capable ces dernières années, et beaucoup d'argent a été mis là-dessus, de faire des diagnostics précoces. C'est pas de la prévention, ça. C'est du diagnostic précoce. On a été capable.
Diagnostic, par exemple, de quoi? De maladies psychiatriques qui se seraient déclarées chez des enfants, des préados, des ados?
Alors, c'est chez les enfants et chez les ados, mais par exemple, de troubles du neurodéveloppement qu'on est capable de diagnostiquer très tôt. De troubles instrumentaux tels que des dyslexies ou des troubles du langage, par exemple, on est capable de le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait des diagnostics ultra précoces et on intervient un an, deux ans, trois ans ou pas d'ailleurs. Parce que certaines familles sont laissées à elles-mêmes alors que le diagnostic a été fait dans un lieu, dans un centre de référence, dans un lieu hyper spécialisé. Et ça n'a aucun sens de faire des diagnostics très précoces et de ne pas être capable de faire des interventions précoces, oui. Si on fait des diagnostics précoces et des interventions précoces, ok. Mais là, on fait un diagnostic et ensuite on vous dit, allez vous mettre en liste d'attente sur votre CMP. Combien d'attente sur ce CMP? Un an, deux ans, trois ans. Et certains parents envoient leurs enfants en Belgique, par exemple, pour des prises en charge du trouble du neurodéveloppement. Donc non, ça va pas. C'est-à-dire que ça, c'est de l'affichage et c'est d'un point de vue santé publique et d'un point de vue humain, totalement contre-productif pour les enfants, mais aussi pour leur famille.
La question des moyens qui revient, et une autre question qui mêle peut-être celle des moyens, mais aussi celle d'une forme de volonté collective qui dépasse largement les politiciens, qui serait une volonté sociale, de favoriser les liens, favoriser nos liens. ceux des enfants entre eux, ceux des ados entre eux, qui n'ont pas tellement d'endroits, en fait, où aller pour être ensemble. Puis quand ils vont dans ces endroits, si c'est l'espace public, on n'aime pas trop, en fait, voir traîner les jeunes, surtout si c'est des garçons un peu dehors, mais aussi quand c'est des filles, d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, selon vous, alors ça dépasse peut-être un peu les compétences d'une pédopsychiatre, mais pour être ensemble?
Alors, ça dépasse peut-être les compétences d'une pédopsychiatre, mais pas de quelqu'un engagé dans la société, parce que je pense, effectivement, c'est une question sociale, sociétale, si on veut insister sur l'importance de l'organisation de notre société. Moi, je trouve les adolescents extrêmement seuls, et leurs parents également. Alors, je vais prendre deux exemples qui sont un peu éloignés, d'ailleurs, du soin. Le premier, c'est l'importance que les enfants et les adolescents grandissent ensemble. Dans une classe d'âge, dans une classe, qui grandissent ensemble, tous ensemble. Et alors évidemment, dans une classe, il peut y avoir un qui est très très fort en, je sais pas quoi, en mathématiques, l'autre qui est très très fort en sport, puis après celui qui est beaucoup moins fort en mathématiques, beaucoup moins fort en sport. Mais s'ils grandissent tous ensemble, avec des liens entre eux et des liens aussi, évidemment, avec les enseignants et avec l'institution scolaire bienveillante qui se dit, bah, je les fais grandir tous ensemble, on va favoriser aussi le fait qu'on s'appuie les uns sur les autres. Celui qui est le plus social, celui qui va nous représenter, celui qui parle moins, mais dont on sait que quand même, il est toujours là pour me consoler quand j'ai une difficulté. Or, là, ce que me racontent les adolescents, ce que je vois du système scolaire, c'est que de plus en plus, on grandit tout seul. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, même à l'intérieur des classes, avec des options, avec des...
C'est la réforme du bac, hein, avec les spécialités. Et la classe se regroupe beaucoup moins, l'emploi du temps le permet moins.
Mais je sais que c'est la réforme du bac, mais c'est la réforme du bac qui est liée à la représentation qu'on a de la réussite scolaire de nos enfants. Donc oui, ces enfants doivent réussir individuellement. Ils se méfient en plus les uns des autres parce qu'ils ne se connaissent pas bien, justement qu'il n'y a pas ces liens de générosité et de fraternité au fond avec les autres adolescents de cette classe. On parle de tout ce qui se passe à l'école, mais dans les choses qui se passent à l'école, il y a bien sûr le harcèlement et il y a aussi le fait qu'on ne peut pas s'appuyer les uns sur les autres et que les plus fragiles dans certains secteurs ne peuvent pas s'appuyer sur les autres plus forts dans certains secteurs, etc. Donc moi, je trouve que cette notion de réussite individuelle au détriment d'une réussite collective d'une classe d'âge, c'est vraiment très dommage. Et en tout cas, ça fragilise nos adolescents et ça fragilise nos groupes d'adolescents. C'est très important aussi que les adolescents construisent des valeurs en commun, des valeurs qui sont liées à la mixité, qui sont liées à la place de cette génération demain, etc. Mais qu'ils puissent le faire ensemble. Donc, qu'il y ait des lieux où ces adolescents construisent finalement, contre nous, j'allais dire, contre la génération d'avant qui a encore le pouvoir, construisent ses propres valeurs, ses propres, par exemple, ses modalités d'engagement écologique, la guerre, enfin, des engagements qui sont liés à l'état actuel du monde. Mais il n'y en a pas des lieux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque adolescent, avec son réseau social et... quelques éléments autour de lui, d'adultes autour de lui, mais il n'y a pas de lieu collectif pour ces adolescents. L'école ayant renoncé à être ce lieu collectif, il n'y en a pas d'autre en réalité. Et donc moi, je vois un certain nombre d'adolescents qui viennent en consultation et qui me disent leur solitude existentielle. Et ils ne savent même pas ce que pensent les autres adolescents. Ils se demandent si ce qu'ils pensent, les autres pensent comme eux. Je me dis, mais c'est incroyable de ne pas pouvoir savoir comme ça, ne pas avoir cette notion de génération. Et la seule chose finalement qui fait lien, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Ici, quand les adolescents sont hospitalisés, ils s'intéressent énormément les uns aux autres. Ils sont tellement contents de pouvoir parler du livre qu'ils ont lu, même de ce qu'ils ont vu sur le réseau social, de qui a raison dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, etc. C'est-à-dire qu'ils sont avides d'échanges et de liens les uns avec les autres, mais ils ont conscience que la maison de Solène, l'hospitalisation, c'est une sorte de bulle. Et ils disent, et quand je vais sortir, certains d'entre eux ne veulent plus sortir, et quand ils ne veulent pas sortir, ils me disent, oui, mais quand je vais sortir, ma solitude va recommencer. Et c'est vraiment cette notion de solitude existentielle, de manque de lien, c'est quelque chose, de, là, pour le coup, très important à notre, là, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très fort.
Et dans Être et Savoir, nous parlons de solitude et de lien pour les enfants, pour les adolescents. Si on en parle, c'est parce que cette année a été marquée par une série de faits divers ultra violents, impliquant des couteaux, des un peu plus que des faits divers. Plusieurs personnes sont mortes. On se demande comment ces événements touchent aussi tous les adolescents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on comprend pas dans la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunesses d'aujourd'hui, parce que elles sont sûrement très diverses. Lydia Brice, j'ai dit, vous étiez coordinatrice jeunesse référente réussite éducative au Centre social La Maison pour tous du Val d'Argent à Argenteuil. Et ma première question, c'est est-ce que vous trouvez les ados isolés? Est-ce qu'ils vous font part d'un sentiment d'isolement?
Alors, je trouve personnellement que nos adolescents sur notre territoire sont de plus en plus isolés. Notamment parce que lorsque je fais des inscriptions, je demande aux parents où sont les espaces où leurs enfants se trouvent à part l'école. Et en fait, il n'y en a pas. Ou il y en a très peu. De plus en plus, les parents vont plutôt nous dire, en fait, il préfère rester à la maison, il préfère être devant ses écrans, il a pas envie d'eux. Alors, on sait que l'adolescence, c'est un peu la période de l'introspection, hein, on est un peu sur soi et on se dit bon, les adultes c'est pas trop le moment d'aller les voir. Ces groupes de pères sont très importants, mais aujourd'hui il y a plus de groupes de pères en fait. Nous sur notre territoire, on se rend compte que bah, les jeunes sont plus sur les terrains de foot comme on pourrait l'imaginer en train de jouer au foot ou dans des espaces qui leur sont un peu dédiés sur l'espace public parce que du coup les espaces comme les autres ont été un peu aménagés pour leur laisser un peu de place. Et quand ils arrivent chez nous, on se rend bien vite compte que la question du vivre ensemble est notre premier point de travail.
C'est-à-dire, vous les sentez moins capables de communiquer entre eux, les interactions sont plus compliquées entre eux, avec vous aussi, avec les adultes. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire de ce que vous voyez?
Ce que je peux vous décrire, c'est une incapacité à des moments à créer du lien avec les autres. On travaille énormément sur les règles de base qui sont du coup le respect, l'écoute, l'échange bienveillant. Qui est très compliqué parce que du coup se retrouver face à l'autre et ne pas comprendre ce que l'autre ressent, et ben ça c'est leur quotidien. En fait, ils sont derrière un écran. Donc, quand ils échangent avec les autres, ils ont pas du tout l'expression de ce qui se vit derrière l'écran de l'autre côté.
Donc, ils décodent pas
les émotions. Pas du tout ce que l'autre ressent. Les émotions, c'est quelque chose de particulier. Déjà qu'à l'adolescence, c'est particulier. Hein, on est rempli d'émotions, plein de choses tombent sur nous. Là, c'est je ne comprends pas l'autre et je ne comprends pas ce qui se passe chez moi. Donc ça crée quand même une instabilité qui est quand même assez importante. Et puis quand je fais le travail de lien avec les acteurs locaux, donc que ça soit les écoles élémentaires, les collèges avec lesquels je travaille en partenariat très souvent et du coup tout au long de l'année, on est tous d'accord là sur notre territoire et tous nos projets sont autour du vivre ensemble. Sans se concerter, en fait, on se rend compte. Et après, bah, du coup, on se dit, bon, on va aller voir au centre de loisirs. Et en fait, le centre de loisirs nous dit, notre projet aussi, il est sur le vivre ensemble. Et puis, on va voir les clubs de sport pour se dire, bah, peut-être que c'est un peu différent avec le monde du sport et de l'éducation sportive. Et ils disent, non, nous aussi, on travaille énormément, en fait, le vivre ensemble. Parce que du coup, on est tous d'accord sur le fait qu'ils ne savent vraiment plus communiquer. Avec l'adulte, c'est moins criant. Parce qu'on a quand même ses parents, donc on a quand même un cadre. On a quand même l'éducation nationale, ils vont à l'école. Mmh. Donc ils savent quand même interagir avec l'adulte, même si que c'est pas toujours parfait. Mais la grande majorité sait se comporter face à un adulte. Par contre, se dire que l'adulte peut être référent et peut être un adulte de confiance, c'est plus difficile. C'est plus subtil et nous, on se retrouve avec des jeunes avec qui, bah, quand je recrute mon équipe, je leur dis « Votre priorité, c'est de créer du lien ». et du lien de confiance. Et pas mon animateur est un ami, mon animateur est un adulte de référence. Si j'ai un problème, je peux aller lui parler pour qu'il puisse me trouver des solutions. Donc il y a une subtilité qui est très dure en plus à faire, parce que c'est un travail qui demande énormément de formation. Parce que c'est
un vrai travail
de faire ça, d'écrire du vrai lien.
Cette formation et ce lien, c'est un peu ce que font les assistants d'éducation dans les établissements, collèges, lycées. Ce sont des adultes qui ne sont pas enseignants, c'est très important. On va en parler tout de suite. Juste nous arrêter d'abord sur cette expression du vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est complètement écrit dans les programmes de maternelle. C'est l'école du vivre ensemble. C'est aussi une expression qui a été extrêmement moquée, parce que c'est vrai que si on le dit juste comme ça, vivre ensemble, ça pourrait ressembler, je sais pas, à un slogan de compagnie d'assurance ou à une formule un peu creuse. Et en même temps, vivre ensemble, bah c'est deux mots essentiels qui disent, qui formulent quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas très bien à faire. C'est ce que vous venez de dire. C'est ce truc là, cette idée de vivre ensemble. Est-ce que, en fait, la question, j'ai envie de la formuler comme ça, Sophie Benetita, est-ce que c'est un peu comme plan social? C'est-à-dire qu'au moment où on commence à le dire, c'est que ça va pas du tout. C'est-à-dire que si on parle de vivre ensemble, c'est parce qu'on arrive justement à pas vivre ensemble. Et quand on parle de plan d'accompagnement dans les entreprises, c'est que justement on accompagne un peu moins bien et qu'on met des mots sur ce qu'on sait pas faire.
Oui, bah effectivement, déjà parler de vivre ensemble, c'est le constat qu'on n'arrive pas à vivre ensemble et qu'on n'arrive pas à le faire. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est écrit dans tous les programmes de l'éducation nationale, de la maternelle au lycée, comme étant un objectif pour apprendre aux élèves à vivre ensemble plus tard. Mais on a beaucoup de mal à se dire, on va apprendre à vivre ensemble maintenant en fait.
Avec non, les élèves, quand j'étais dans le programme de maternelle, parce que c'est dans le programme de maternelle, pour le maintenant de maternelle, c'est d'arriver à rester dans la même pièce en parlant pas tous en même temps, par exemple.
Mais c'est vrai que quand on regarde, après, il s'agit de former les futures citoyennes et les futurs citoyens à leur dire vous allez voter, vous allez vivre dans une société, vous allez respecter des règles, vous allez faire société, vous allez vous intégrer. Tout ça, c'est des choses qu'on travaille. Mais le côté on vit ensemble maintenant, dans le collège, dans le lycée, on est quelque part une petite société avec ses règles, ses droits, ses espaces. Tout ça, ça a petit à petit disparu de ce qu'on pouvait faire. Et de ce point de vue-là, l'effacement progressif de la démocratie collégienne et de la démocratie lycéenne est terriblement révélateur de notre incapacité à travailler ensemble.
Mais pourquoi effacer ? Il n'y a plus de délégués de classe ?
Il y a des délégués. Bien sûr que si, il y a des délégués de classe. Alors avec la particularité qu'on a assez peu d'élèves qui sont les élections de délégués de classe au collège et en lycée, c'est toujours des grands moments de n'importe quoi, il faut vraiment le dire, des élèves qui ne voient pas bien ce que c'est. Et on a du mal à faire comprendre que être délégué de classe, être délégué au conseil de vie lycéenne, au conseil de vie collégienne, c'est travailler pour la communauté, c'est travailler pour les autres élèves, c'est s'engager dans des projets qui vont faire vivre le collectif et qui vont faire aussi avancer la communauté des élèves, parce qu'il y a aussi une façon de présenter l'engagement dans ces fonctions comme quelque chose de très individuel, notamment quand le ministère à plusieurs reprises a dit engagez-vous au conseil de vie lycéenne, ça sera une façon de valoriser votre parcours dans Parcoursup. Sauf que quand vous faites ça, vous êtes dans une dimension très individuelle, très individualiste et absolument pas dans quelque chose de construction du collectif, là, à l'instant T. Et la démocratie lycéenne, la démocratie collégienne, ça fait partie de tous ces espaces qui aujourd'hui nous manquent pour créer du collectif et créer du vivre ensemble aujourd'hui.
Donc elle recule, il y a moins de candidats aux élections.
Ah oui.
Au collège et au lycée. Ça fait partie des signaux faibles qu'on pourrait observer sur l'état du lien social et puis peut-être même de la politique. Hein. Ça dit quelque chose. Les ados, c'est un miroir de...
Ça dit beaucoup de choses. On n'a pas objectivé les choses sur la baisse du nombre de candidatures, mais on voit bien quand on fait les élections et de délégués en début d'année, qu'on discute entre collègues, et puis quand on est prof principal, on l'est souvent d'année en année, donc on voit comment les choses évoluent. Et effectivement, c'est moins, il y a un peu moins de candidates et de candidats. Il y a un manque de perception aussi de ce que ça veut dire finalement de représenter le collectif, d'agir pour le collectif, mais certainement aussi parce que que autour d'eux, représenter le collectif, agir pour le collectif, c'est quelque chose qui est pas très visible, qui est pas très porteur quand on regarde aussi le politique autour de nous. De toute façon, l'école n'est jamais que le réceptacle de tous les maux de la société. Donc si on a du mal à faire vivre le collectif en dehors de l'école, on a aussi du mal à le faire vivre dans l'école. Mais c'est pour ça que cette question de l'isolement des élèves et du collectif à construire, à reconstruire, elle est en fait profondément politique, parce que c'est une façon de réapprendre, d'apprendre à construire le vivre ensemble dans les collèges et les lycées. Et c'est certainement ce qui a un peu manqué dans les commentaires politiques ces derniers jours, c'est que en gros, on nous a dit qu'un élève qui tue son AED ou qui tue son enseignante...
Donc, AED, c'est le cycle pour assistant d'éducation,
soit il est radicalisé, soit il est fou. Mais c'est extrêmement binaire comme vision des choses, et il faudrait plutôt qu'on s'interroge collectivement, on le fait un peu ici ce soir, mais si ça pouvait devenir un objet de débat politique au sens large, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait société dans l'école et en dehors, là on apporterait une véritable réponse à l'isolement de nos élèves.
Laurence Touroud, vous avez travaillé sur la difficulté scolaire, le handicap, qui est une grande question qui traverse l'école aujourd'hui, évidemment, les conflits et les violences en milieu scolaire, avec l'objectif d'analyser tout ça, mais aussi de faire de la prévention en ce qui concerne la violence. Les AED, les assistants d'éducation, justement, c'est un personnel hyper important, très spécial, qui peut avoir un lien très différent avec les élèves, sont justement des jeunes adultes, souvent ils sont plus jeunes que les professeurs, qui sont là pour faire du lien. Comment vous avez, on a appris cet assassinat terrible de Mélanie, qu'est-ce que vous en avez pensé, sans peut-être chercher à faire des analyses sur un fait divers dont on ne peut pas tout savoir, mais finalement on parle assez peu des assistants d'éducation, et là tout à coup, on voit, c'est quand même un personnel qui est en première ligne aussi.
Oui, c'est un personnel en première ligne qui se met bien souvent en danger, qui sont précaires et qui ont besoin d'un cadre institutionnel solide. J'entends par cadre institutionnel la direction, la hiérarchie, les collègues et tous les adultes qui sont responsables de l'éducation dans l'établissement. Et malheureusement, il y a des dysfonctionnements dans les cadres institutionnels dont souffrent les assistants d'éducation, puisqu'ils sont des acteurs, comme j'appelle, de l'entre-deux, hein, c'est-à-dire entre les élèves et l'institution, entre l'institution et les parents. Ils sont jeunes hein, aussi. Ils ont besoin de soutien, de cohérence et de cohésion et de soutien. Or, quand j'entends, j'ai analysé leur récit de conflits qu'ils ont eu à gérer sur le terrain, je m'aperçois qu'il y a des obstacles au niveau du collectif, justement. Et il peut y avoir un vide. Et il peut y avoir des dysfonctionnements du cadre. J'en ai repéré trois. Dysfonctionnement par manque de circulation de l'information. L'AED n'étant pas informé qu'il y a eu un incident le matin
et en classe, par exemple,
ne travaillant pas le matin et arrivant le midi, elle n'a pas les codes pour réagir correctement parce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un incident, donc le cadre est fragile par manque de circulation de l'information. Alors s'il se passe rien, tant mieux, mais s'il se passe quelque chose, le conflit va être mal géré et l'assistante d'éducation est en première ligne pour subir les violences. Le deuxième cas de dysfonctionnement est plus grave et malheureusement fréquent, c'est une inconsistance du cadre, c'est-à-dire on accepte un jour ce qu'on a refusé la veille, ou le contraire, ou on accepte ce que mon collègue, AED aussi, ou enseignant, refuse obstinément, et il n'y a pas de cohérence dans les règles, donc à quel sein se vouer dans ces cas-là, tout de suite, surtout l'adolescent, va s'engouffrer dans la faille pour faire sa propre loi. Donc, ça finit par être la loi du plus fort. Donc, il y a un vrai manque de repères stables, qui se construisent normalement collectivement. Dans une société individualiste, comme on l'a dit, le manque de place, le manque de liens, fait que le cadre est d'autant plus fragile, effracté en permanence. Alors, qu'il soit effracté, c'est une chose, mais s'il est solide, il doit être réhabilité après une transgression. Il n'y a pas de risque.
En fait, c'est la base de l'éducation. Il faut que les règles soient toujours
oui, c'est
les
la base,
mêmes.
Mais, sauf que est-ce que l'établissement scolaire est toujours un lieu d'éducation, justement? La question se pose. Ou bien une prestation de service gestionnaire? Voilà la question aussi. Emparons-nous du sujet de l'éducation. Parce que c'est vraiment un vrai sujet. Hein. Et puis, le troisième dysfonctionnement est vraiment beaucoup plus grave, c'est-à-dire l'AED n'est pas soutenu par sa hiérarchie, par la direction, et fait les frais, finalement, est discrédité, en quelque sorte, par l'institution. Donc là, le cadre est ruiné, et il arrive que la hiérarchie, finalement, cède au pouvoir parental et se mette du côté du transgresseur qui va venir avec son père, avec son frère. Et puis...
C'est le pas de vague
pas de
dont
vague.
On a parlé.
Donc,
pour les professeurs.
Donc, l'AED n'est pas réparée. Hein, je veux dire, elle a été frappée, etc. Et il n'y a pas de réparation. Parce que la réparation, c'est un processus qui s'adresse à la victime. Elle n'est pas reconnue comme victime. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déprimer, elle va se mettre en arrêt de maladie le temps de digérer tout ça, voir un psy, enfin... les solutions aussi sont bien trop individuelles.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce sont des personnes qui finissent par gérer, mais un peu comme les enseignants, Sophie Vénétité, les questions qui ne sont pas réglées par... et pourtant, les règlements existent, par les hiérarchies d'éducation nationale.
Oui, les règlements existent. Il y a des règlements intérieurs dans tous les collèges et les lycées, mais il ne faut jamais oublier que les métiers que nous exerçons, que ce soit celui d'enseignant, de CPE, c'est-à-dire de conseiller principal d'éducation ou d'assistant d'éducation, sont des métiers où on est par définition, par nature, par essence, isolé et seul. Vous êtes seul face à votre classe. Vous êtes seul dans le bureau du conseiller, dans votre bureau de conseiller principal d'éducation, face aux élèves. Et c'est là où on aurait aussi besoin, nous, en tant que personnel, en tant qu'adulte dans les établissements, de pouvoir recréer du collectif aussi pour éviter notamment ces différences d'interprétation. Moi, en vous écoutant, j'avais forcément en tête l'exemple type, surtout en ce moment dans les collèges et les lycées, c'est la question de la casquette, du port de la casquette. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui portent la casquette, il y en a qui ne le portent pas, puis chacun a un peu sa propre règle sur tu portes la casquette, tu ne la portes pas à l'intérieur, et les élèves s'engouffrent dedans, et ça peut être effectivement l'objet de tensions très vives, et ça peut même fracturer le collectif d'adultes. Donc effectivement, on a besoin de recréer du collectif pour les élèves, mais aussi pour les adultes, pour pouvoir assurer quelque part un cadre stable dans lequel on pourra tous vivre ensemble.
Mais enfin, ça paraît fou. Il faut faire des réunions pour se mettre d'accord sur le fait qu'il faut enlever les casquettes ou qu'on peut les laisser. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai pas d'opinion sur les casquettes à l'intérieur d'un établissement. Ah ben, qu'est-ce qui vous manque? Du temps pour se mettre d'accord, du dialogue. Est-ce que c'est une culture?
Il manque du temps.
N'est pas la bonne. Qui devrait changer? Je ne sais pas.
Il manque du temps et des espaces, en fait. Des espaces où on pourrait se retrouver pour faire du collectif.
Aujourd'hui, mais c'est ce que disait Marie-Rose Moreau pour les élèves.
Et c'est aussi, c'est profondément valable pour les élèves, c'est aussi, j'ai envie de dire, terriblement valable pour nous. Aujourd'hui, un personnel d'un collège ou d'un lycée, il passe son temps à courir après ses classes, à courir après les élèves, à courir après d'autres adultes. On parle des élèves entre deux portes. On parlait des élèves entre la porte de la salle J205 et de la salle J206, en voyant votre collègue, en vous disant, mais au fait, tu as vu pour tel élève ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu les parents? Bah non, puis tout de suite, il y a l'autre classe qui arrive.
Mais comment c'était avant?
Alors, avant, on avait ce temps parce qu'on n'était pas forcément, je dirais, enseveli sous des tâches diverses et variées qui ne sont pas les nôtres.
Lesquelles ?
Aujourd'hui, notamment sur le suivi des élèves et le suivi des familles, on pouvait faire ça à plusieurs. Aujourd'hui, quand la psychologue de l'éducation nationale, elle est là, quand vous en avez une pour 1600 élèves, quand l'infirmière scolaire, elle est là une fois par journée, parce qu'elle a 3, 4 ou 5 autres établissements, et le jour où elle est pas là, vous allez pas dire à l'élève qui vient vous voir en vous disant j'aimerais bien vous parler, vous allez pas lui dire désolé, je m'occupe pas de toi. À un moment, on a choisi ces métiers-là aussi pour être aux côtés des élèves. Et on se retrouve à gérer ça, tant bien que mal, souvent parfois mal d'ailleurs, mais on essaye de faire du mieux possible. Et on se retrouve à avoir la casquette du professeur principal, du CPE, de l'assistant d'éducation, de l'infirmière scolaire, du PsyEN. Et c'est pas normal cette situation-là, parce qu'on n'est pas formé pour faire ça. Moi, je suis pas formée pour faire psychologue de l'éducation nationale, je suis pas formée pour être infirmière scolaire. Et on se retrouve des fois, malgré nous, à gérer ces situations, je dis bien à les gérer et pas à vraiment les traiter comme il le faut. Et quand vous faites tout ça, bah, vous avez plus le temps de vous dire « Tiens, moi, dans ma classe de seconde 5, il faudrait qu'on se voit avant le conseil de classe pour passer en revue les différentes situations, pour voir comment est-ce qu'on a travaillé avec les parents d'élèves et comment tous les adultes de l'équipe ont travaillé avec les parents d'élèves. »
Cette question du temps revient tellement souvent que je ne cesse de me dire, mais dans les années 90, vraiment on était dans une époque dorée où et peut-être aussi la question des écrans là, a-t-elle quelque chose à voir avec ce temps qui nous manque. On ne sait même pas si on peut vraiment l'analyser, mais je suis à peu près sûre de moi. Ludia Brice, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas à l'école. Dans une autre institution, un centre social, c'est différent. Je pense qu'il y a des règles aussi. Oui. Je pense que c'est peut-être plus souple, on est dans une autre relation avec les adolescents. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous aidez l'école? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez d'ailleurs assez de moyens pour accueillir les jeunes qui auraient besoin de venir dans des centres tels que le vôtre? Je vais parler pour votre centre, mais pour en général, ce qu'on fait dans les centres sociaux.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a clairement pas les moyens. Je n'ai pas besoin de le dire, je pense que c'est la même problématique.
Non, mais c'était important de le faire dire.
C'est la même problématique que l'éducation nationale et des autres structures qui peuvent être présentes sur le territoire. Moi, aujourd'hui, pour me payer, c'est 5 appels à projets. Donc, on a 1000 feuilles administratives qui est super important. Mes animateurs sont des vacataires, souvent des jeunes qui sont du coup étudiants et qui veulent donner de leur temps et que du coup je forme. Donc c'est d'autres, c'est encore du temps. Les centres sociaux ont pour vocation de faire un accompagnement global, donc je ne m'attarde pas que sur le jeune, je m'attarde sur le jeune, ce qu'il fait en dehors de chez nous, sa famille, ses interactions et toutes les structures dans lesquelles il peut traverser. Donc je peux aussi faire le point avec le CMP, je peux autant faire le point
avec le centre avec médico-psychologique,
pareil avec les programmes de réussite éducative. Donc j'essaie d'avoir vraiment une attention globale sur ce jeune-là, ce qui demande du coup du temps. 90 jeunes pour moi à l'année à suivre. Donc ça veut dire 90 familles, potentiellement 90 problématiques différentes. Mais ce qui est réconfortant, c'est de dire que du coup, nous, avec un cadre un tout petit peu plus souple, ça ne veut pas dire que du coup, je suis plutôt d'accord avec les dames autour de moi, c'est que mon cadre, il ne bouge jamais. À part si on fait consensus ensemble, c'est-à-dire qu'on se regroupe avec les jeunes, on se met d'accord sur les règles et ils ne bougeront plus ces règles.
Est-ce que les liens que les jeunes qui se voient dans ce centre où on va à la fois faire des activités, pouvoir faire réaliser son travail scolaire, parce que c'est important d'avoir un endroit, parfois c'est pas super pratique la maison, etc. Est-ce que ces jeunes créent des liens entre eux?
Oui. C'est
ça aussi, il faut qu'on en parle.
Vendredi, j'ai fait mon bilan avec mes familles. Je suis allée au collège, j'ai fait le bilan au collège, j'ai fait le bilan avec les familles. Première chose que j'ai dit aux familles, c'est vos enfants sont horribles au collège et sont horribles avec nous. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas les codes. C'était la première chose que je leur ai dit. Et puis derrière ça, moi, j'ai eu le retour des familles qui me disaient, ben moi, ma fille, elle arrivait, elle nous disait rien à la maison. Et aujourd'hui, elle nous parle. Et ça, je trouve ça super chouette, parce que ça veut dire que du coup, elle a compris que l'adulte pouvait être une personne qui pouvait être à l'écoute, qui pouvait avoir des espaces pour dire les choses. C'est notre vœu le plus profond hein, dans ce qu'on est. On a des groupes de pères, donc du coup, maintenant, je vois des lycéens qui se parlaient pas trop et qui aujourd'hui ont des groupes, disent bah ah on va se faire un cinéma là, ah ils revivent des choses parce que nous on les emmène sur des lieux aussi qui peuvent revisiter finalement tout seul. L'objectif, c'est de les amener vers l'autonomie, donc de privilégier les transports, de privilégier des lieux qui sont accessibles et où ils peuvent aller tout seuls en autonomie, et ça fonctionne.
Parce qu'il faut les entraîner à sortir,
bien sûr,
par exemple, aller dans une autre ville, voilà. Faire une visite culturelle.
On est sur une autre génération. C'est-à-dire, on est sur une génération qui vit à travers ces écrans. Donc, on peut pas se dire parce que les musées sont gratuits, ils vont aller au musée. C'est faux. Si on les y accompagne pas, on leur donne pas les codes juste le truc de se dire on y va, on voit que ça prend 20 minutes en transport, que du coup, c'est accessible, que finalement, personne ne demande rien au musée, en fait. On y va, on regarde, on aime, on n'aime pas. On se donne notre avis à la fin. Et puis, en fait, on a juste passé un moment chouette tous ensemble. Voilà, c'est juste ça. C'est peu fait. En fait, quand on y va dans le cadre scolaire, il y a quand même, on a une visite guidée avec quelqu'un qui nous dit un peu ce qu'on doit penser de l'œuvre qu'on a en face de nous.
En tout cas, il faut dire,
il y a un cadre. Il y a un super cadre qui est celui de l'éducation nationale, mais il n'y a pas un cadre pour pouvoir se dire ce que nous on en pense. Alors que quand nous on y va, on le prépare réellement pour se dire, nous on leur dira quasiment rien. À part, lisez ce qui est écrit. Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on le décrypte avec vous et on redécrypte avec vous? Puis c'est eux qui nous font leur retour. Mais juste ça, de se sentir à l'aise dans un lieu où finalement on leur demande rien à part d'être eux et de dire les choses, comme quand ils sont chez nous, hein, où ils sont capables de nous dire ça s'est super bien passé, c'était top. Et ça, pas du tout, on n'a pas aimé, c'était ni ludique, ni intéressant, on n'a rien appris. C'est des espaces où il y a peu, en fait, finalement, où est-ce qu'on laisse les enfants et les jeunes dire je suis pas d'accord avec le cadre, je suis pas d'accord avec ce que vous venez de me proposer, comment on peut faire autrement, parce que du coup l'objectif c'est presque de refaire autrement avec eux. Et moi, j'ai de plus en plus de jeunes, c'est trop chouette. Une de mes bénévoles, c'était une élève de première que j'avais eu en cinquième.
Mais on mesure le besoin d'éducation populaire aujourd'hui. On a fait une émission récemment sur le sujet.
Tout à fait.
Les besoins sont énormes et ils sont pas remplis, et dans tous les types de quartiers, en fait.
C'est ça. Et du coup, c'est très chouette quand cette jeune, elle vient me voir en première et elle me dit, je veux venir ici parce que du coup, j'ai pas le droit de sortir. C'est le premier truc qu'elle me dit. Et elle me dit, du coup, est-ce que je peux être bénévole? Je lui dis, ok. Derrière, elle est rentrée dans une équipe, elle s'est fait plein d'amis dans cette équipe où ils l'ont prise vraiment à la même hauteur qu'eux, alors que c'est une première, hein, elle est encore en lycéenne. Et les jeunes l'ont prise en adulte référent, en ayant conscience que c'était une jeune du quartier et qu'elle était lycéenne. La question de la posture et le cadre dans lequel on s'insère. C'est-à-dire que du coup, la première chose que j'ai dit, c'est toutes les personnes en face de vous sont des adultes référents. Tranche d'âge, on n'en parle pas. Et après, toute l'équipe l'a maintenue, c'est-à-dire de l'agent d'accueil à la direction. Les adultes sont vos adultes référents. La posture est très intéressante, mais c'est très dur à travailler. C'est un long travail et je pense que...
On va en parler pour les assistants d'éducation avec Laurence Tourault, carrément.
Énormément d'informations dessus. Nous, on a proposé à plusieurs reprises au collège de notre territoire de former les assistants d'éducation sur l'accompagnement et sur le lien et comment faire lien avec les élèves, parce que du coup, tout le monde est en manque de moyens. Enfin, nous, on est sur un territoire, 15 000 habitants, 45% de la population a moins de 25 ans. À part deux centres sociaux associatifs et une structure jeunesse.
Mais on a ces établissements scolaires et normalement avec ces assistants d'éducation qu'on forme aussi. C'est quoi la posture d'un...
Alors,
vous,
la
Laurence,
posture.
D'un assistant d'éducation, je veux dire la bonne posture à adopter, on n'est ni enseignant, ni un jeune élève soi-même, pourtant on est plus ou moins jeune, en tout cas on n'est pas un prof, c'est sûr, et quand ça se passe bien, c'est formidable, les assistants d'éducation, ce sont aussi des adultes auxquels on peut parler davantage.
Et ils doivent être considérés comme aussi bien pour tenir le cadre, les tenants du cadre. Et qu'est-ce qui régule le cadre, ce sont les équipes de direction. Hein, un cadre soutient et structure, par définition. Et s'ils se sentent soutenus, ils sont tout autant respectés que les enseignants. Mais il faut qu'ils se sentent soutenus et non pas discrédités, bien entendu. Ce que je pense aussi de la posture, c'est qu'elle doit être orientée vers les besoins communs à tous. Alors, le besoin de lien est fondamental. Mais on a aussi le besoin de défense contre l'angoisse. L'école, par exemple, a plutôt tendance à générer des angoisses.
Ça dépend, mais...
Ou, en tout cas, lutter contre l'angoisse, pas pour tout le monde. Les besoins d'apport narcissique, de renvoyer une bonne image d'eux-mêmes, pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Hein, on a tous besoin d'avoir une image positive de soi. Et si on la trouve pas à l'école, on va la trouver dans la rue ou dans la famille ou dans des lieux de transgression. Mais c'est un besoin humain fondamental. Donc,
vous voulez dire qu'il faut valoriser les élèves ou valoriser les assistants d'éducation ou les deux?
Tout le monde,
oui,
doit se sentir valorisé.
En le disant,
c'est-à-dire
c'est clair.
Un sentiment d'appartenance à l'établissement et le sentiment que son travail a un sens. Les élèves, le sentiment qu'il y a un sens au savoir. Hein, le sens des savoirs. Donc, il faut réhabiliter tout cela, le sens des savoirs, le lien aux enseignants, le lien groupal, le lien au groupe aussi. Et le lien aux adultes, c'est un lien d'identification. On veut être comme. Alors, quelle image les adultes représentent-ils? Justement, alors on parle d'empathie, mais on est dans une société extrêmement individualiste, concurrence. Peur de l'autre, le lien de confiance, bah oui, tout à fait d'accord, mais où est l'empathie dans les situations de concurrence généralisée de tous contre tous?
Alors, je ne sais pas si les auditeurs remarquent les légères modulations du son, mais comme vous n'arrêtez pas de vous tourner vers tout le monde autour de la table pour parler, et ben vous n'êtes pas toujours devant le micro.
Excusez-moi.
Mais je trouve ça très sympathique, parce que justement, vous adressez vraiment à nous en nous regardant chacune. Laurence Touroud, c'est vrai que c'est pas facile quand on a énoncé tout ce que doit faire un assistant d'éducation qui est par ailleurs payé avec un énorme lance-pierre, hein, c'est quand même ça, et des contrats qui sont précaires parce que en termes de temps, en termes de durée dans l'année, ça peut bouger. C'est pourtant un travail aussi pour ceux qui vont se diriger parfois vers le professorat ou vers le métier de CPE. C'est presque aussi une formation pour mieux connaître les élèves, ce métier.
Oui, mais alors s'il se sent soutenu, il n'est pas seul. Même quand il est seul à gérer une situation, il sait que il peut aller trouver quelqu'un d'autre. Faut pas penser qu'il faut tout régler soi-même tout seul.
Mais justement, la vraie question, c'est est-ce que un assistant d'éducation doit vérifier les sacs? Est-ce que ça, puisque ça s'appelle plus surveillant? Maintenant, ça s'appelle assistant d'éducation. Donc, cette histoire de vérifier les sacs des élèves, ce qui se fait énormément. Hein. Là, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites sur ce sujet, mais c'est vrai, les élèves en parlent. Ma stagiaire, Agathe, qui est en stage cette semaine dans l'émission, m'en a parlé dans son collège et dans son lycée. Donc, c'est la réalité des établissements d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne modifie pas complètement le travail de devoir faire ça?
Je crois que ça n'est pas une bonne réponse au problème de transgression, que ça peut même alimenter des rancœurs et l'envie d'en découdre avec l'institution. Donc, ça alimente aussi les violences antiscolaires. Le contrôle systématique, ça peut... les élèves sont considérés comme des ennemis potentiels. Enfin, il y a quelque chose là derrière qui ne donne pas un sentiment de sécurité et de confiance. Bon, déjà dans le contrôle systématique, la fouille des sacs à l'entrée. Enfin, on est dans un lieu d'éducation, hein, donc il faut qu'il y ait du personnel présent aux entrées. Il faut de l'accueil, il faut de la parole. Il faut connaître notre public, mais je pense que c'est pas toujours bien perçu. Quant aux réponses qui sont contraires justement au lien en termes de dispositifs de vidéosurveillance, ils sont plutôt contre-productifs. Hein, ils déresponsabilisent les adultes, et justement, alors là, c'est considéré comme quelque chose de magique, et du coup, le lien a encore plus de mal alors à se mettre en place, parce que on se dit, les problèmes vont se régler comme ça, puis pendant ce temps-là, on peut faire autre chose et faire de la bureaucratie.
Alors que c'est pas préventif, la vidéosurveillance, ni les portiques. Il y a beaucoup de travaux sur la question, et on en a parlé, en tout cas, des portiques, il n'y a pas très longtemps, dans l'émission avec Nathalie Patton, et oui, il y a plein d'études sur le sujet, dans d'autres pays où ça existe, les États-Unis, ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas d'effet.
Et même, cherche pas une prévention par la parole, la formation et l'éducation d'une façon générale. Et d'ailleurs, le consensus avec les parents aussi, ils sont partenaires de l'éducation. On peut pas faire contre les parents non plus.
Et en même temps, pour revenir à ce qui se passe, à cette apathie, à ce manque de lien, je vous propose d'écouter le témoignage d'Agathe, donc stagiaire. Deux secondes, vous savez, c'est la période des stages de secondes en juin désormais. Agathe, elle avait beaucoup à dire sur la sécurité des établissements, je l'ai dit, mais j'ai choisi de vous faire entendre son témoignage sur son année scolaire en seconde. Écoutez.
Moi, j'ai eu cette année une classe pas très sociable où on est tous restés inconnus les uns des autres. Et c'était assez particulier, on se parlait pas tant que ça. Je connaissais pas les prénoms des gens de ma classe, on communiquait pas. Après, il y avait une classe en bavardage, ça c'était bien. Les profs, ça les arrangeait, mais d'un côté, il y avait aucune communication, aucune entraide. On n'était pas plus contents que ça d'aller en cours, c'était pas très attrayant. Et c'est même pour vous dire à quel point, en février, les profs qui ont organisé des goûters, qui ont organisé un Secret Santa avec 2 mois de retard pour essayer d'instaurer une certaine cohésion. Et après, ça s'est fait un peu plus. Il y a eu un carnaval, on a dû se mettre d'accord ensemble sur un thème, on a essayé d'un peu plus communiquer et se parler. Et un exemple étonnant, il y a un mois, on a fait un débat en cours de français. Et j'ai entendu la voix d'un garçon de ma classe que je n'avais jamais entendu prendre la parole parce qu'il est assez timide. Et j'ai entendu sa voix pour la première fois de l'année lors de ce débat où il a été obligé de prendre la parole. On ne se connaît pas les uns les autres.
Comment tu te l'expliques, Agathe ?
Je vais peut-être avoir le discours de mes parents, mais moi je dirais que c'est pas mal lié aux réseaux sociaux. Les jeunes passent de nos jours beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'en personne avec les gens parce que ils peuvent communiquer, ils peuvent s'envoyer des messages, des vocaux, comme si c'était la vie réelle. Au lycée, il y a des élèves, ils s'enferment, ils ont leur casque, leur téléphone, ils parlent à personne, ils sont assis sur un banc de la récréation et il n'y a aucune communication avec le monde extérieur.
De quoi t'aurais besoin, vous auriez besoin, vous les élèves de ton lycée, peut-être en général les élèves, pour se parler plus, être davantage ensemble, créer de nouveaux liens, plus divers aussi, pas qu'avec ses meilleurs amis?
Je dirais des temps d'échange, ça pourrait être intéressant parce que la récré c'est quand même grand, les couloirs c'est quand même grand, tout le monde est éparpillé. C'est un peu compliqué d'aller à la rencontre de nouvelles personnes alors que s'il y avait des temps d'échange consacrés à ça.
Des temps ou des lieux ?
Des lieux d'échange ou des temps d'échange. Par exemple, si on a une pause, avoir un endroit, une salle avec des canapés, c'est tout bête, mais une salle avec des canapés où tu peux te regrouper entre jeunes, parler et où on n'est pas forcément sur nos téléphones et tout. Et même que ce soit plus, pas ludique parce qu'on est en cours pour apprendre, mais un peu plus ludique. En France, c'est très... vous êtes sur votre chaise, vous écoutez le cours. Il y a quelques profs, ils le disent d'ailleurs, qui font des débats, qui organisent des parties orales, qui font des échanges, on fait des devoirs de groupe, où là, ça nous permet de rentrer en cohésion avec les autres. Mais sinon, il y a des cours où c'est très carré et ça ne profite pas à notre relationnel.
Qu'est-ce qui te rend heureuse en tant qu'ado de 16 ans ?
Moi, avec mes amis, on est beaucoup, on adore faire comme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a nos petits appareils photos qui datent d'il y a 10, 15 ans. On fait des photos, on fait des souvenirs, on fait des après-midi où on va faire des bracelets. On fait un peu comme des jeunes enfants, alors que maintenant, les jeunes enfants, ils sont pas mal sur les réseaux sociaux ou sur les écrans. Mais on revient un peu comme les jeunes enfants. Et je pense qu'il me rend heureuse, c'est de rendre heureux les gens.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Un témoignage, parmi d'autres, celui d'Agathe, on parle du manque de lien aujourd'hui, on en parle à la suite de l'assassinat d'une assistante d'éducation à Nogent, mais en fait c'est aussi ce qui m'intéresse aussi dans cette émission, c'est de voir comment tout ça vibre, comment on reçoit ces informations quand on est professeur, quand on est assistant d'éducation, quand on les forme comme vous Laurence Tout, quand on est élève ou comme vous Laurent Loudia Brice, on est avec des jeunes au quotidien, pour les accompagner dans un centre social. Est-ce que vous reconnaissez, Sophie Vénétité, l'école d'aujourd'hui à travers les propos d'Agathe? Ces classes où on ne connaît pas le prénom de ses camarades?
Oui, je reconnais complètement les classes que nous voyons dans nos collèges et nos lycées, c'est-à-dire des élèves qui sont ensemble sans être ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même salle, ils sont dans la même classe, ils sont peut-être sur le même niveau, mais ils ne sont pas vraiment ensemble. Ils ne se connaissent pas forcément, ils n'ont pas forcément ces lieux et ces espaces d'échange. Et de ce point de vue-là, le fait qu'on a perdu ce qu'était le groupe classe, avec ses interactions, avec ces échanges qui pouvaient exister, ces choses qui allaient bien, ces choses qui allaient moins bien, ça a aussi joué sur la capacité à faire de la classe un lieu de socialisation, un lieu de sociabilité. Ça, aujourd'hui, ça a été complètement atomisé, notamment parce qu'au lycée, la classe...
Mais elle
la
est
classe
juste en seconde, là. Donc, elle est encore dans une classe, groupe-classe. Alors, groupe-classe, c'est l'expression de prof pour dire qu'une classe, c'est un groupe de personnes. Mais ça peut avoir du sens quand on voit qu'avec la réforme du lycée... Avec toutes les options, enfin c'est les spécialités pardon, et puis les langues différentes choisies. Ben voilà, on va être ensemble en cours pendant quelques heures par semaine, mais beaucoup d'autres groupes se forment et se reforment suivant les disciplines choisies.
Voilà, ça c'est valable notamment pour la première et la terminale, mais quelque part au-delà de cet effet sur ce qu'est la classe ou ce qu'était la classe, les élèves effectivement, alors ils sont très divers. Certains peuvent être sur les réseaux sociaux et avoir un cercle d'amis à côté qui leur permet d'échanger, je dirais, dans la vraie vie. Mais il y a aussi une forme d'isolement, de repli sur des petits cercles d'amis, voire de repli sur soi. Il faut parfois voir à quoi ressemblent les couloirs d'un collège ou d'un lycée. Par exemple, au retour de la récréation, vous avez quand même des élèves qui sont les uns à côté des autres et qui parfois se parlent très peu. Moi, j'ai été très surprise là sur la fin de l'année. Dans mes classes de seconde, ça a été effectivement les derniers cours, c'est l'occasion de quelque chose d'un peu différent. Les élèves avaient beaucoup de mal à aller les uns vers les autres et voire même certains restaient un peu dans leur bulle. Et quelque part, on se dit que c'est aussi un constat d'échec de ne pas avoir réussi à faire du collectif dans la classe et de ne pas avoir réussi à trouver ces espaces et ces lieux,
mais
même
est-ce
en
que
dehors
c'est
de la classe.
Les téléphones, voilà, qui engagent au repli sur soi, on le dit beaucoup, les écrans, ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je vous mets sur la piste parce qu'il reste plus beaucoup de temps? Est-ce que c'est la compétition scolaire? Est-ce que c'est
on peut pas dire qu'il y a que les écrans. Enfin, ça serait quelque chose de trop simpliste de dire c'est de la faute des écrans. Certainement que ça a joué dans une forme d'isolement, mais de la même manière qu'on peut remonter à ce qu'a été le Covid. Le Covid, il y a eu avec la question du confinement, on a laissé penser que le collectif était dangereux. C'était ça qu'il y avait aussi derrière la question du confinement. Et oui, la compétition scolaire qui peut exister et la façon de valoriser l'individu, l'individuel, l'élève plutôt que le collectif, c'est une réalité. Quand vous êtes dans une compétition pour Parcoursup, quand on vous dit il va falloir montrer ce que vous avez fait en tant qu'individu dans votre parcours scolaire et extrascolaire, vous êtes dans une logique très individualiste, très individuelle qui peut isoler. Quand on vous dit on va prendre les meilleurs pour les mettre dans le groupe des bons et
les groupes de niveau, on va en parler bientôt.
Et les moins bons. Pour les mettre dans les groupes des plus faibles, quelque part, vous êtes aussi dans une logique très individuelle et très individualiste de compétition qui isole plutôt qu'elle ne rassemble. Donc il y a une
multitude de facteurs. C'est pas trop nouveau que l'école soit compétitive.
Non, mais quand vous l'ajoutez dans un contexte où il y a des objets comme les réseaux qui peuvent isoler, dans un contexte où on a du mal à faire du lien social, on a du mal à créer du vivre ensemble, quand on a petit à petit gommé les espaces qui pouvaient faire du collectif dans les établissements scolaire.
Le foyer,
la maison des lycéens, je parlais tout à l'heure de la démocratie lycéenne et collégienne, mais il n'y a pas que ça. Tous les clubs, les associations, la maison des lycéens, tout ça, ça a petit à petit disparu. Même les espaces, vous savez, quand on repense les espaces, les cours de récréation, aujourd'hui, on les pense, et c'est tant mieux, à l'aune de la végétalisation des espaces scolaires, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi penser les espaces collectifs. Et en fait, ce sont toutes ces explications qui s'accumulent. Bien évidemment, l'évolution de la société en dehors de l'école, une forme d'individualisme, les réseaux, l'évolution de la société, de notre système scolaire. Et tout ça, mis bout à bout, nous met dans une situation où finalement, les élèves sont très seuls, sont isolés et où on a perdu cette capacité, pour l'instant, à faire du collectif. Et c'est là tout l'enjeu, je dirais, social et politique, que de faire de l'école un lieu qui crée du collectif, du vivre ensemble, en plus de ce qui se fait en dehors de l'école.
Du lien, vous avez quelques secondes, hein, Laurence Touroudon.
Il y a beaucoup d'anxiété aussi, beaucoup d'angoisse de cette solitude, parce qu'on a besoin de liens, c'est un besoin fondamental. D'ailleurs, Daniel Siboni, dans son ouvrage « Violence », parle bien du lien de groupe comme un recours contre l'angoisse, et aussi, le recours contre l'angoisse, c'est aussi le partage de la parole. Bon, la parole, c'est du lien et avoir un projet créatif. Alors, pour créer du lien, eh bien, on crée des projets communs où tout le monde doit participer.
Il vous en parle de ce manque de lien. Alors là, il reste vraiment quelques secondes.
Oui, le manque de lien, même les jeunes, se fait savoir et c'est pour ça qu'on existe. Hein. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Je n'aurais pas 90 jeunes à l'année avec des parents qui s'inquiètent et des jeunes qui sont de plus en plus nombreux. Donc oui, mais finalement, nos lieux fonctionnent. On a accueilli 160 jeunes de toute la France, donc ça montre qu'on peut le faire et que les centres sociaux ont trouvé peut-être un bout de réponse qui pourrait être dupliqué dans d'autres structures.
Bien. Merci de l'avoir dit ce soir. Merci à toutes les trois, également à Marie-Rose Moreau, d'avoir participé à cette émission.